Bienvenue dans cette émission entièrement réalisée par deux classes de seconde nautique et carrosserie. Pendant plusieurs séances, nous avons réalisé des interviews radiophoniques sur plusieurs thématiques. Nous nous sommes rendus au loin au salon nautique du Grand Pavois à La Rochelle. Nous avons rencontré des entreprises en carrosserie du pays de l'Orient. Nous avons reçu une historienne venue nous parler du massacre des tirailleurs sénégalais. Et enfin, nous avons enquêté sur les risques du téléphone sur notre sommeil au sein même de notre lycée. Merci d'être venu nous écouter, c'est parti. Pour commencer, direction le salon nautique du Grand Pavois à La Rochelle, où les élèves en nautisme se sont rendus en octobre dernier dans le cadre de la découverte professionnelle. Quel professionnel avez-vous rencontré ?
Nous avons rencontré Rémi Harlet de l'entreprise Liberty Kite. Ce commercial travaille sur le développement d'un cerf-volant de nouvelle génération. Il permet aux bateaux en panne de déployer une aile pour se déplacer avec le vent. Une solution utilisée sur le vent des globes, mais également la possibilité de décarboner une partie du trafic maritime. On l'écoute.
Le Liberty Kite, c'est notre solution très simple de traction des bateaux par kite. Ça tient dans un petit sac, c'est autogonflant, n'importe qui peut le manipuler. Et on va jusqu'à des bateaux, on a une gamme de produits de 10 mètres carrés, 20 mètres carrés, 40 mètres carrés, 80 mètres carrés. Aujourd'hui, on peut tracter des bateaux jusqu'à 20 mètres de long. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment fait de calcul sur cette autonomie et sur l'efficacité. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, Liberty Kite n'est pas fait pour faire avancer les bateaux rapidement, mais on est sur de la slow navigation, en anglais slow, lent. C'est le plaisir de naviguer lentement, donc on va pouvoir tirer des bateaux sur des vitesses de 3, 4, 5 nœuds en fonction de la puissance du vent. Et en fonction de la taille de la voile, on aura des efficacités plus ou moins hautes. Pour la navigation en termes de développement durable, ce qu'on propose avec le Liberty Kite, qui est un kite simple d'usage, c'est de pouvoir l'installer sur n'importe quel bateau moteur pour augmenter l'autonomie des bateaux ou pour réduire la consommation à bord. Voilà. Le vent étant une énergie naturelle et gratuite, quand on met un kite qui tire un bateau, on peut réduire la puissance du moteur, voire la couper et avancer avec la puissance du vent. Mais le gros projet de développement durable, ce n'est pas forcément Liberty Kite, c'est l'autre projet, Sea Kite, qui est là un gros projet pour décarboner le transport maritime, qui est une énorme partie de la pollution mondiale aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a une trentaine de personnes, voire même une quarantaine de personnes, avec des alternants, des jeunes ingénieurs, qui travaillent au développement de ce kite, aujourd'hui de 100 mètres carrés, mais qui va rapidement évoluer sur 200, 400, 600, voire plus, on ne connaît pas encore les limites, afin de les installer sur tous les cargos.
Mallory, vous avez aussi rencontré un ancien élève du lycée ?
Oui, il s'appelle Anthony Burguin et il a en effet suivi ses études dans notre lycée et nous lui avons demandé de nous raconter son parcours professionnel.
J'ai fait 4e et 3e technologique à ETEL. Voilà. Ensuite, j'ai été directement en BEP, donc pendant 2 ans. Ce qui est la différence de vous, vous faites le bac pro en 3 ans. Donc moi, j'ai fait BEP en 2 ans, plus bac pro en 2 ans encore derrière, donc 4 ans tout d'études. Et au final, j'ai fini par la FCL, qu'ils appellent ça ? FCIL, ouais, donc formation complémentaire hors bord. Et ensuite, j'ai été embauché donc, à Centre Marine Lorient, voilà, en tant que mécanicien. Donc, j'ai été mécanicien pendant, on va dire, 6 ans. Ensuite, je suis passé responsable d'atelier pendant 5 ans. Et là, je suis donc commercial et je reprends donc le... je reprends donc le directeur du Centre Marine. Donc je reprends tout le groupe, enfin le groupe Centre Marine. Donc on a 5 mécaniciens, plus moi en tant que commercial. Voilà.
Quel est votre rôle sur le salon ?
Ben, mon rôle sur le salon, c'est d'essayer de vendre des bateaux. Déjà de rencontrer des gens de chez nous. Donc moi, j'ai la zone de Lorient. Donc Lorient, Etel, on est une zone, on va dire, jusqu'à Concarneau entre guillemets, suivant les marques, parce qu'on fait plusieurs marques, on fait Yamaha, Pacific Craft, Tempest, on fait aussi Seaweed, Brig, Iron, et c'est tout.
Maël, vous êtes aussi intéressé aux bateaux électriques.
En effet, car ils représentent environ 2% de marché de la vente des bateaux, selon l'Association française des bateaux électriques. Cette association créée en 2008 est dirigée par Yannick Villevaux, le patron de Naviwatt, une entreprise qui conçoit des bateaux électriques situés à Arzon. On lui a posé quelques questions sur l'avenir du moteur électrique et sur les compétences nécessaires pour travailler dans ce milieu.
Quelles sont les compétences nécessaires pour travailler dans les moteurs électriques ?
Une formation, on va dire, d'électricité générale, déjà. Lire des schémas électriques, comprendre ce que c'est que des puissances, toutes les typologies de moteurs, synchrone, asynchrone, aimant, sans aimant, voilà, donc tout ça. Comprendre aussi comment circulent les énergies dans les différents composants d'un système.
Selon vous, quel niveau d'études faudra-t-il ?
Alors, ça dépend. Pour travailler à l'atelier, si on travaille sur, on va dire, la réparation, l'installation, la maintenance des systèmes, votre formation suffira, je pense. Hein, c'est-à-dire le niveau que vous avez là. Après, si on veut commencer à travailler sur la conception, il va falloir passer sur plutôt un BTS électrotechnique, par exemple. Si je peux vous donner un conseil, c'est aller sur les sites qui parlent de ça, notamment l'Association française bateaux électriques. Donc, c'est une association qui regroupe tous les projets nouveaux. Aller sur les sites des fabricants des moteurs, sur le site qui est plutôt plus intéressant pour vous, les fabricants des bateaux, et ce qui est nouveau, c'est-à-dire les mises à l'eau, les mises à l'eau récentes. Donc avoir la culture générale.
Merci à vous pour toutes ces interviews. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission. Changement de décor, direction à présent la région lorientaise où les élèves de seconde carrosserie sont allés interviewer des professionnels de différentes entreprises. Lequel avez-vous choisi d'interviewer ?
Écoutons d'abord Monsieur Karl Guigano, chef d'équipe de carrosserie chez Porsche Lorient.
Quelle est votre fonction chez Porsche ?
Donc du coup, je gère la carrosserie chez Porsche Lorient et je gère les deux collaborateurs qui travaillent avec moi.
Et comment on devient carrossier chez Porsche ?
Alors, beaucoup de passion, l'expérience, et puis vraiment aimer le métier, et puis voilà, très méticuleux.
D'accord. Vous avez fait quoi comme études ?
Alors du coup, j'ai fait un CAP carrossier, et puis voilà, j'ai commencé comme ça, il y a des années, 35 ans. Et puis voilà, au fur et à mesure, on a évolué. Et puis, travaillé beaucoup sur des véhicules anciens, déjà des Porsche, déjà dans des garages.
Direction Breck, près d'Auray, dans la casse Stock Car, où nous avons tendu le micro à son responsable, Samuel Nabat.
Bonjour, comment vous appelez ?
Samuel.
Bonjour Samuel. Alors, nous avons trois questions à vous poser. Donc la première question, c'est combien de véhicules recevez-vous par semaine ?
En gros, on rentre une trentaine de voitures par semaine.
Ok, merci. Deuxième question, combien d'opérations pour dépouiller une voiture ?
D'opérations pour déployer une voiture. Bah, vider tous les fluides, donc les pots catalytiques, et après les. Bah, en dépollution, t'enlèves l'huile, le liquide de frein, le liquide refroidissement, le gaz de clim, le carburant, le lave-glace. T'as 6 opérations à la base pour déployer une voiture. Si c'est une électrique, t'en as une 7e.
Pourquoi dans une voiture électrique on a besoin de 7 ?
Ah, parce que t'es obligé d'enlever la batterie en plus.
Dernière question. Combien d'employés nécessaires pour déployer une voiture ?
T'as un gars par poste, un gars peut faire une voiture tout seul.
Ok, merci.
Merci Raphaël, merci à vous pour toute cette interview. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission. Place à présent à la dernière partie de cette émission avec deux sujets bien loin de nos métiers. Une historienne est venue dans notre lycée pour nous parler du massacre de Tchaïroï, puis nous avons enquêté sur le sommeil et les écrans. Commençons avec la venue de cette historienne.
Avez-vous entendu parler du massacre de Tchaïroï ? Le 1er décembre 1944, plusieurs centaines de tirailleurs africains sont tués par l'armée française. Une longue enquête réalisée par l'historienne Armelle Mabon raconte les points d'ombre autour de ce massacre. Elle est venue en parler au lycée en avril dernier.
Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'histoire du tirailleur sénégalais et au massacre de Tiroy ?
J'étais moi-même petite fille de prisonnier de guerre. Donc la captivité, ça m'a toujours intéressée. Et puis j'ai entendu parler aussi de Tiaroy par le père de mes filles qui est sénégalais. Et du coup, voilà, c'est comme un chaudron. Et puis je me suis beaucoup intéressée donc, à la fois à cette captivité singulière et après forcément à cette sortie de guerre problématique qu'était Tiaroy.
Pendant vos recherches, vous a-t-il causé des problèmes ? Si oui, lesquels ?
C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas fait plaisir à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai été intimidée en 2014 quand j'ai fait ce devoir d'alerte. Et il y a eu donc un militaire historien qui a publié une lettre ouverte grâce à Jeune Afrique, en plus, un journal. Bon, j'ai pas compris pourquoi ils avaient publié cette lettre et qui me met en cause comme si je faisais mal mon travail, voilà, que je faisais des omissions d'archives. Mais du coup, pour me défendre, j'ai déposé une plainte en diffamation publique, ce qui n'a pas été accepté par les historiens, parce que ça ne se fait pas dans notre métier. Mais en même temps, ça m'a permis de sortir aussi du piège de cette intimidation. Donc j'ai été parfois ennuyée, mais le fait d'avoir déposé cette plainte, après, on m'a vraiment j'ai pas eu de problème après, si ce n'est toujours me battre pour avoir des archives. Et le ministère dit toujours non, on n'a pas ces archives, elles ont été détruites, elles n'existent plus. Mais je suis sûre que je me bats parce que je suis sûre qu'elles existent et que je peux les consulter et que je dois les consulter et que ça soit transparent, voilà, et que la réalité des faits soit dite.
À votre avis, que faudrait-il faire concrètement pour honorer les soldats de manière juste et honorable?
Déjà, il faudrait accepter de dire, dire la vérité, rendre justice en innocentant ceux qui ont été condamnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Il est hors de question de laisser des hommes dans des fosses communes. Donc déjà, il faut exhumer les corps, il faut leur offrir une sépulture digne. Il faut réparer aussi pour les familles, parce que il y a beaucoup de choses, y compris... ceux qui ont été assassinés, il y a réparation pour les familles. Pour tous les sommes que ces hommes n'ont pas perçues, les familles peuvent réclamer ce versement. Et puis, je pense que déjà, quand des historiens relaient l'histoire officielle, il faut aussi faire comprendre qu'ils n'ont pas le droit de dire ça. Donc, il faut aussi peut-être mettre un peu plus de rigueur dans ces recherches. Voilà. Merci à vous. Merci.
Aruel Mabon a écrit le livre « Le massacre de Tiaroy ». Merci et terminons à présent avec notre dernier sujet et cette question « Quel est l'impact de nos écrans sur notre sommeil ?»
En effet, nous avons voulu enquêter sur ce sujet. Pour cela, nous sommes allés interviewer l'infirmière du lycée et l'un des surveillants de l'internat de notre lycée. Écoutons d'abord l'infirmière. Elle nous a expliqué les effets sur la santé de la lumière bleue des écrans.
Oui, alors le sommeil est très important pour la santé, ça permet une récupération physique, psychologique et intellectuelle. C'est vrai que la nuit, nous produisons de la mélatonine et le téléphone juste avant le sommeil est très mauvais parce que déjà il y a une lumière bleue qui ne permet pas justement un endormissement serein. Justement, ça a un effet négatif sur la mélatonine. Donc regarder son téléphone et cette lumière bleue avant de dormir est très mauvais pour une bonne nuit de sommeil réparatrice.
En connaissance de cause, de nouvelles habitudes ont été instaurées à l'internat du lycée. Les explications d'un des surveillants.
On va, à l'heure du coucher, on va passer avec des chariots dans chaque couloir et on va récupérer les téléphones. Donc tout ça dans le but d'améliorer le sommeil des élèves principalement, parce qu'on s'est rendu compte que les élèves internes étaient fatigués. Et donc voilà, on le rendra le lendemain matin. En contrepartie, on incite les élèves à prendre des livres, à prendre des lampes torches aussi, parce que les lumières sont éteintes. Alors, comme j'ai dit, c'était principalement pour une raison de santé publique, c'est pour le sommeil, favoriser le sommeil des élèves. Donc c'est ça qu'on attend comme résultat principalement, c'est les élèves en meilleure santé et qui ont passé une bonne nuit. Voilà.
C'est la fin de cette émission. Bravo aux élèves, merci aux professeurs et aux journalistes qui nous ont aidés à la construction de cette émission. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt sur cette antenne.